Que reste-t-il de notre enfance? Comment nos premières années de vie ont façonné notre vie d'adulte? C'est la question posée cet après-midi dans La Tête au Carré, en partenariat avec le magazine Cerveau et Psycho, qui consacre un dossier ce mois-ci à la construction de la personnalité. L'occasion de comprendre ensemble à quel point nous sommes influencés par nos interactions précoces avec nos parents et plusieurs travaux scientifiques qui ont été menés sur des milliers de personnes suivies tout au long de leur vie vont nous en dire plus justement sur ce thème. Mes invités vont nous livrer les conclusions de ces études, ils vont répondre à vos messages et à vos témoignages. Franceinter.fr est le mot-clé d'attaque pour nous retrouver. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science cet après-midi, une stratégie de séduction inventée par les fleurs pour séduire les pollinisateurs.
Et oui, et une stratégie secrète, nous ne pouvons pas la voir puisque tout se passe dans l'ultraviolet. Mais une belle découverte que nous commentons avec Edwige Moiroux de l'Université de Cambridge.
Et c'est Fanny Bouillon qui réalise cette émission préparée par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Comment notre enfance nous façonne? C'est la question posée dans un instant dans le dossier avec mes invités, le professeur Grégory Michel et Sébastien Boller de Cerveau et Psycho. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Grégory Michel, l'environnement familial, c'est d'abord ce qui nous construit pour la vie?
C'est un des éléments qui effectivement intervient dans la construction, on va dire, de notre personne, de notre personnalité. Il y a l'environnement familial, mais il y a aussi notre patrimoine, on va dire, biologique et notre patrimoine aussi génétique. Je pense qu'on y reviendra.
Absolument, avec les gènes qui construisent notre tempérament. On va le voir avec vous dans un instant. Sébastien Boller, on dispose d'études scientifiques menées au long cours maintenant sur cette question de la personnalité.
Oui, il y en a qui ont commencé déjà il y a presque un siècle, en fait, et qui permettent de tirer des enseignements, parce que c'est une question... qui nous préoccupe tous, on voit tous au quotidien quand on a des réactions un petit peu étranges, on se dit ben, est-ce que ça me vient de mon enfance? Et évidemment on pense à la psychanalyse qui a fait de l'analyse de l'enfance et une valeur explicative très forte, mais en fait on se rend compte qu'il y a des mesures quantitatives qui existent qui permettent vraiment de tracer des trajectoires avec toujours une part d'incertitude, hein. C'est pas du déterminisme, mais ça donne des repères assez solides quand même.
Ouais, on va se retrouver dans un instant justement pour explorer tous ces thèmes avec les messages et les témoignages des auditeurs qui nous rejoignent. De très nombreuses fleurs ont des reflets ultraviolets pour mieux attirer les pollinisateurs. C'est une découverte remarquable aujourd'hui à la une de la science.
Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur.
Voilà, une jolie fleur de Brassens d'un côté et la recherche de cette équipe de l'université de Cambridge de l'autre qui vient de percer un secret bien gardé et pourtant, on va le voir, fondamental de la biologie végétale puisque les pétales de très nombreuses plantes à fleurs ont des nanostructures qui leur permettent de refléter la lumière ultraviolet du soleil. C'est un halo bleu et violet qui attire les abeilles et les bourdons en particulier. On en discute avec une des auteurs de ces travaux, Axel Villard.
Oui, on est au téléphone avec vous, Edwige Moiroux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste à l'université de Cambridge, au département de biologie végétale, premier auteur de ces travaux. Alors, comment est-ce que vous avez découvert ce halo qui est invisible à nos yeux, hein?
Alors, en fait, c'est vraiment une longue histoire. Le groupe à Cambridge avait déjà fait des travaux précédemment où ils avaient identifié une première fleur qui semblait créer ces espèces d'effets structurels, hein. Donc, on parle de couleurs qui ne sont pas faites par des pigments, mais qui sont produites par des structures microscopiques invisibles à l'œil nu, qui jouent avec la lumière et qui donc révèlent les différentes longueurs d'onde qui créent les différentes couleurs, qui normalement sont mélangées et créent de la lumière blanche qui nous entoure.
Où est-ce que se trouvent les structures dont vous parlez sur les pétales?
Donc, elles peuvent être à différents endroits sur les pétales. Généralement, c'est la partie du pétale qui est exposée à la lumière. Donc, c'est aussi la partie du pétale qu'on voit le mieux, mais c'est aussi la partie du pétale que les pollinisateurs voient le mieux aussi.
Et à un moment, vous vous êtes dit peut-être que toutes les fleurs ont ces structures, c'est ça?
En fait, donc, on n'en avait vu qu'une. Et une des choses qui nous intéressait, c'était de savoir si on était tombé sur une espèce exotique qui avait un mécanisme très excentrique, ou si au contraire, on était en train de comprendre un mécanisme qui était bien plus universel. Donc, une des premières choses qu'on a fait, c'est d'utiliser les collections des jardins botaniques de Cambridge et de Kew à Londres pour essayer de voir si on pouvait trouver plus d'une espèce qui produisait cet effet.
Mais ce processus, lorsqu'il a été découvert pour la première fois sur la première fleur, c'était quoi? C'était l'effet du hasard? Comment ça a été identifié, puisque c'est invisible à l'œil nu?
Donc c'est visible à l'œil nu chez très peu d'espèces, les espèces qui ont aussi un pigment très foncé. Donc la première espèce sur laquelle cet effet a été reporté, c'est une espèce d'hibiscus. Et c'est un hibiscus qui a un pigment violet très très concentré, ce qui fait que le pétale, une partie du pétale a l'air presque noir. Mm-hmm. Et sur cette partie noire, on peut voir un aspect iridescent, un petit peu si vous regardez une tache d'huile par terre ou une bulle de savon.
Ouais.
Et donc c'est cette espèce d'iridescence qui a attiré l'œil des biologistes en premier. Mm-hmm.
Et est-ce qu'il est possible de décrire comment les pollinisateurs, eux, voient cette iridescence-là ?
Alors... oui et non. Ce que l'on sait, c'est que cette iridescence particulière des fleurs est décalée dans la partie bleue ultraviolette. Donc on sait qu'ils vont pouvoir percevoir des signaux très très vifs, bleus ultraviolets. Maintenant, une des choses qu'on aimerait comprendre et qu'on ne comprend toujours pas, c'est de savoir, une des caractéristiques de ces couleurs structurelles, c'est qu'elles changent avec l'angle d'observation. Donc si vous regardez la fleur à certains angles, vous ne voyez pas du tout l'effet. Si on regarde à d'autres angles, on voit un effet bleu très fort. Et les pollinisateurs ont des yeux qui sont très différents des nôtres. Ce sont des yeux composés à facettes. Et donc, une des questions intéressantes, c'est de savoir si les différentes facettes, les différents yeux, si vous voulez, de cet œil composé, perçoivent différents effets de l'iridescence. Donc ça, on ne peut pas encore reconstruire complètement l'effet. On sait qu'ils le perçoivent, mais on ne sait pas exactement comment.
Et est-ce qu'on sait si ces insectes peuvent percevoir tout le temps, justement, cet halo bleu ou pas ?
Donc non, ça va être à certains angles d'approche. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, quand vous observez en ralenti un pollinisateur qui s'approche d'une fleur, il y a une espèce d'effet où ils arrivent vers la fleur et ils bougent autour de la fleur. Donc ils vont être exposés à différents angles de vision.
Et est-ce que pour vous, il est possible de voir vous-même en tournant la fleur les reflets sur des fleurs auxquelles on ne faisait pas attention avant ?
Oui, exactement, absolument. Donc cette espèce d'hibiscus, ce n'est pas une espèce très très commune, mais il y a des espèces de tulipes. Par exemple, il y a une tulipe très connue des jardiniers qui s'appelle la reine de la nuit. Et elle est très connue parce que c'est une tulipe noire. Donc c'est pas une espèce naturelle, c'est une variété qui a été en fait produite à travers des années de sélection pour essayer d'obtenir une tulipe qui soit presque noire. Et en fait, c'est pratique pour nous parce que comme elle est noire, on voit très bien les effets d'iridescence. Et on peut voir cet effet de halo bleu à certains angles, si vous bougez la fleur en face de vos yeux.
Et physiquement, comment la fleur fait pour produire ces structures qui reflètent seulement les ultraviolets ?
Alors ça, c'est aussi une grande question qui nous intéresse, et on espère qu'on sera capable d'expliquer ça bientôt. Cet effet est créé par des striations sur la surface du pétale. Et ces stries, elles sont très très petites, elles sont quelques centaines de nanomètres, donc moins d'un micromètre. Jusqu'à présent, on ne sait pas exactement comment les cellules de la fleur vont contrôler ce qui se passe sur la surface pour créer ces stries, mais on commence à avoir quelques idées.
Est-ce qu'il y a une histoire d'évolution là-dedans, de sélection de certains types de stries ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ?
Oui. Donc, sur les différentes espèces qu'on a observées, on a vu que la forme des stries pouvait varier, mais il y a une pression de sélection pour essayer de garder une certaine quantité de désordre. Donc, ces stries, elles ne sont pas parfaitement aligné. Si vous imaginez quelque chose de très proche, et si vous regardez l'envers d'un CD. Mm-hmm. L'envers d'un CD, vous allez voir les effets d'iridescence, vous voyez toutes ces couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est créé par les données du CD, les pistes d'inscription du CD, qui sont en fait une série de stries et de vallées qui sont séparées les unes des autres à un intervalle très régulier. Donc vous avez des stries qui sont parfaitement identiques, parfaitement espacées. Sur nos fleurs, ce qu'on observe, c'est qu'on a un système de stries, mais les stries ne sont pas toujours parfaitement séparées et leur hauteur, leur épaisseur peut varier. Et ça, c'est très important parce que c'est cette variation qui crée l'effet du halo bleu. Au lieu d'avoir un effet arc-en-ciel qui produit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on a une iridescence qui produit uniquement des couleurs dans la partie bleue et ultraviolette du spectre.
Est-ce qu'on peut dire que les fleurs ont un filtre UV d'amour pour les pollinisateurs ?
Alors, elles ont plus d'un filtre, en fait, parce que certaines fleurs vont avoir un filtre UV pour protéger des rayons UV. Hein. Les fleurs n'ont pas forcément envie, en quelque sorte, d'être exposées aux rayons UV qui pourraient causer des dommages sur leur ADN, comme n'importe quel organisme vivant. Mais une autre façon de créer un filtre, c'est d'utiliser ce rayonnement UV pour créer des couleurs qui soient visibles, très visibles pour les insectes.
Sébastien Boller, vous avez une question pour Edwige Moiroux.
Oui, une question toute bête. Je me demandais pourquoi est-ce que la lumière ultraviolette les attire, en fait ?
Alors, on ne sait pas exactement si elle les attire. Ce qu'on sait, c'est que c'est une couleur que les insectes voient très bien, parce que contrairement à nous, les insectes ont des photorécepteurs dans leur système visuel pour le bleu, le vert, mais aussi pour l'UV. Et nous n'avons pas ces photorécepteurs pour l'UV. Donc pour nous, l'UV n'est pas quelque chose que l'on voit, alors que c'est une couleur supplémentaire, si vous voulez, de l'arc-en-ciel que les pollinisateurs peuvent voir.
Justement, vous avez travaillé sur les abeilles et les bourdons, c'est ça principalement ?
C'est-à-dire
qu'on ne connaît pas les réactions des autres insectes vis-à-vis de ce halo ?
Non, non, non. Alors ce qu'on peut, si on devait faire émettre une hypothèse, il y a des chances que les abeilles à miel voient ce blue halo très bien également, parce que leur système visuel est très 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 proche du système visuel des bourdons. Après, si on s'éloigne des insectes, c'est très difficile de faire une prédiction concernant la perception des oiseaux. Il faudrait qu'on fasse des expériences en plus. C'est un petit peu plus compliqué qu'avec des abeilles, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans le futur.
Vous avez testé directement l'effet de ce halo en enlevant le côté fleur et en gardant que la structure sur des pollinisateurs ?
Voilà, exactement. Donc quand on essaye de faire des expériences de comportement avec les animaux, si on garde une structure florale identique à la fleur naturelle, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent varier. Donc on essaye de faire des expériences contrôlées où le seul paramètre qui change, c'est la présence ou l'absence du halo bleu. Et en faisant ça, on a pu voir mesurer exactement la contribution du halo bleu au comportement des insectes.
Merci beaucoup en tout cas Edwige Moiroux pour ces explications liées à votre découverte, celle de votre laboratoire. Vous êtes biologiste à l'université de Cambridge en Angleterre et ça fait l'objet d'une publication ces derniers jours. Merci beaucoup d'être passé par la Une de la Science. À bientôt.
Merci à vous.
Et Axel, à demain.
À demain et au revoir Edwige.
Allez, en bref. Dans le reste de l'actualité scientifique, alors que se joue en ce moment le destin de l'Europe face au glyphosate, cet herbicide controversé, eh bien les chercheurs californiens expliquent que la plupart des Américains ne savent même pas qu'ils absorbent quotidiennement cette molécule dans leur alimentation. Le taux de glyphosate dans l'organisme des citoyens américains est pourtant en augmentation constante depuis 1994, date qui correspond au début des cultures génétiquement modifiées sur laquelle il devenait possible d'utiliser cet herbicide. Quelques milliers de personnes aux États-Unis atteintes de cancers spécifiques ont engagé une action en justice contre le géant Monsanto. Les mésanges charbonnières britanniques ont le bec qui s'allonge en comparant les populations de Grande-Bretagne à celles des Pays-Bas. Des chercheurs montrent que les becs de mésanges anglaises grandissent de génération en génération, alors que ça n'est pas le cas aux Pays-Bas. Une sélection naturelle est donc à l'œuvre et qui s'explique simplement par une habitude prise par les Anglais d'installer des mangeoires pour les oiseaux dans leur jardin. Pratique moins courante aux Pays-Bas visiblement, les oiseaux naissant par hasard avec un bec plus long ayant plus de facilité à se nourrir dans ses abris en Angleterre ont aussi un plus grand succès reproductif. Encore un exemple de notre impact sur la sélection naturelle des espèces que nous côtoyons. Et puis pour terminer, pour les curieux de physique de l'univers, l'université de Cambridge vient de mettre en accès libre et gratuitement la thèse du physicien star Stephen Hawking. Le manuscrit est disponible depuis hier sur le site de l'université qui a connu déjà plusieurs crashs suite à l'afflux de visiteurs. Si vous souhaitez déchiffrer à votre tour cette thèse rédigée à la machine à écrire il y a plus de 50 ans et intitulée « Les propriétés de l'univers en expansion », nous avons mis un lien pour vous sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, on va scruter la genèse de nos personnalités dans un instant.
Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut ravoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant, pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut ravoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant. Matisse, l'amour, c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la vie les tabasse, et alors elle passe.
machine. Le rouge pour faire tomber la misère de nos gentils petits grands-pères. Noir les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'or peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blanche qu'on croyait éternelle avant? Allez, à la machine.
L'amour à la machine, Alain Souchon.
La tête au carré. Les mercredis psy et philo avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Tu sais, mon bébé, j'étais beaucoup occupée ces derniers temps parce que je veux faire un film pour toi. Je veux faire un film qui te dira d'où tu viens et où tu vas. Un film qui te dit tout le passé de ta maman, qui sont tes grands-parents. Comme ça, tu seras tout, mon petit ange. Je veux que tu naisses dans la vérité. Tu comprends? Moi, je recherche la vérité. C'est tout.
Voilà, extrait de ce film « Pardonne-moi » de Mai Wen en 2006 pour ouvrir notre discussion sur la construction de la personnalité et le poids de l'enfance avec mes invités aujourd'hui, Grégory Michel et Sébastien Boller. Grégory Michel, vous êtes professeur de psychopathologie à l'Université de Bordeaux et vous co-dirigez l'équipe INSERM Elsie Santé et Réussite des Jeunes. C'est ça, c'est le nom de votre équipe. Vous avez publié en 2006 « Personnalité et développement du normal au pathologique » chez Duno. Et puis Sébastien Boller, vous êtes le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho et on discute avec les auditeurs qui nous rejoignent donc sur le site de l'émission avec les messages et les témoignages sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Très bien Sébastien Boller, cette couverture de votre magazine avec ce petit garçon barbu. Tout est résumé finalement dans l'image hein, pour traiter de...
Oui, c'est ce qu'on a mis du temps à trouver une image qui résume effectivement le fait que l'enfance est présente dans l'âge adulte et qu'il faut savoir trouver où et comment.
Ouais. Donc vous avez pu faire ce montage qui résume bien finalement ce dont on va parler ensemble cet après-midi. C'est la construction de la personnalité, Grégory Michel, hein, qui est centrale dans ce dossier auquel vous avez participé. On pourrait dire quoi? Que la personnalité finalement c'est la carte d'identité d'une personne, une sorte d'empreinte unique en son genre?
Exactement. Ouais. C'est-à-dire que c'est ce qui va singulariser véritablement une personne au travers de ses pensées, de ses jugements, de ses attitudes, de ses comportements. Il y a effectivement des dimensions de personnalité sur lesquelles on va pouvoir un peu se retrouver, mais la manière dont ces dimensions vont être finalement combinées les unes aux autres, voire même les sous-dimensions, vont donner vraiment un caractère très singulier à la personne. Donc oui, c'est la carte effectivement d'identité de la personne.
Ouais. Et quand on essaie de déterminer une personnalité, alors on s'y prend comment? On essaie de justement de voir quels sont alors les caractères innés acquis. On entre dans ce champ de discussion ou pas alors?
Oui, bien sûr. Mmh. Alors. Il y a une méthodologie et c'est vrai que Sébastien en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que pour travailler un petit peu sur les aspects, on va dire, de l'enfance qui peuvent, on va dire, expliquer des comportements à l'âge adulte, on a maintenant du recul via notamment des études longitudinales. Et certaines ont utilisé justement des méthodes dites un peu quantitatives, évaluatives, où on a à la fois une évaluation plurisource, c'est-à-dire que pour évaluer la personnalité, on doit avoir les moyens de rendre compte du fonctionnement global de la personne, c'est-à-dire que les parents vont remplir des questionnaires, les enseignants, on va essayer d'avoir une sorte d'évaluation plurisource. Et puis, lorsque l'enfant est à même, on va dire, de parler, il va lui-même aussi rendre compte de son vécu. Mmh. Et à partir de ça, on va pouvoir déterminer quels sont les paramètres, les facteurs qui vont permettre d'expliquer la stabilité d'un certain fonctionnement ou des changements. Alors, il y a des facteurs qui sont, on va dire, vous l'avez dit, hein, tempéramentaux, c'est-à-dire le tempérament, c'est finalement la partie biologique de la personnalité. Ouais. Et puis il y a des aspects, on va dire, environnementaux, qui peuvent être liés à la fois à l'environnement familial, donc des caractéristiques socio-économiques, mais bien sûr aussi des pratiques éducatives. Mmh. Et puis, il y a l'environnement qui est non partagé par la famille.
C'est-à-dire
ce qui se passe à l'école,
ouais,
ce qui se passe dans les activités sportives, les choses, effectivement, qui concernent, par exemple, l'école.
Ouais.
Et bref, on est dans des,
tout ça,
des
ça fait
jeux d'interaction.
Ça fait des couches sédimentaires, au fond,
hein,
qui nous façonnent.
Oui,
et pour voir qu'il y a des périodes de la vie où ça évolue plus
ça.
Ou moins, effectivement. On rentre dans ce débat de l'inné et de l'acquis, du coup, Sébastien, immanquablement.
Oui, alors il n'a pas été prédominant dans le dossier parce que, en fait, les recherches en génétique sur la personnalité, c'est quelque chose qui reste encore assez incomplet. Hein. Quand on va chercher des variations sur certains allèles de certains gènes qui vont donner des tempéraments plutôt extravertis, plutôt stables émotionnellement, il y a des choses, mais finalement, c'était pas du tout l'objectif du dossier.
Mmh.
Donc là, c'était plutôt partir du postulat de l'acquis précoce, voilà, tout ce qui va s'imprimer précocement.
Et dès le ventre de la maman ou pas? Est-ce qu'on va jusque-là?
Non, on peut, oui. Là, dans le dossier, on commence vraiment dans l'enfance. Hein. Mmh. On n'est pas remonté in utero, mais effectivement.
La grossesse, finalement, est-ce que c'est un moment, Grégory Michel, aussi d'incubation pour la construction de la personnalité?
C'est vrai que, du coup, les connaissances dans certains domaines de la biologie ou de la génétique de la personnalité restent encore un peu parcellaires, c'est vrai, par rapport à des profils, à des dimensions comme ça de personnalité. Mais finalement, il y a, on va dire, une sorte de conceptualisation et de modèle, finalement, qui devient être un peu plus opérationnalisé maintenant. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire qu'on n'est plus effectivement dans ce dualisme de base qui était effectivement d'expliquer par exemple la personnalité par le tout génétique ou par le tout environnement,
mmh,
ce qui a permis du coup à créer un certain nombre de malentendus dans l'explication de certains troubles où on disait bah voilà, ça c'est de la faute de l'environnement, de la famille, des mères pour certains troubles. L'épigénétique, c'est l'influence de l'environnement sur l'expression, on va dire, des gènes.
Mmh.
Et on comprend très bien qu'effectivement l'environnement va agir sur l'expression des gènes, par notamment l'intermédiaire de la méthylation, par exemple, hein, est-ce qu'il y a l'ADN va être activé ou inactivé. Mais cette influence de l'environnement va aussi intervenir avant. C'est-à-dire pendant, effectivement, la vie intra-utérine, l'alimentation de la mère. Le stress, par exemple, de la mère va aussi agir sur la manière dont, on va dire, la biologie de la personnalité, le tempérament va aussi se conditionner, se structurer.
Mmh.
Donc on est plus du tout dans ce dualisme-là qui permet justement d'éviter tout déterminisme,
ouais,
ce qui complexifie la compréhension de la personnalité, mais ce qui donne beaucoup plus de souplesse aussi à la compréhension de celle-ci.
Alors la maîtrise justement du gène et le déterminisme, ça fait fantasmer beaucoup évidemment, c'est l'objet d'ailleurs de la science-fiction avec un extrait de ce film Bienvenue à Gattaca qu'on écoute tout de suite.
On disait qu'un enfant conçu dans l'amour avait une plus grande chance d'être heureux. C'est une chose que l'on ne dit plus. Je ne comprendrai jamais ce qui a poussé ma mère à placer sa confiance dans les mains de Dieu plutôt que dans celles de son généticien local. 10 doigts, 10 orteils, c'est tout ce qui importait autrefois. Plus maintenant. Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus.
Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Hyperactivité, 89% de probabilité.
Je sais qu'il fera quelque chose. Tu feras quelque chose.
Assez effrayant quand même. Là, c'est le tout génétique pour le
effrayant,
coup.
Ouais.
Capable de déterminer
à
l'avance la personnalité justement de l'individu, Sébastien.
On voit que Gattaca a préparé un peu le terrain à notre relation fantasmatique avec la génomique aujourd'hui. Avec, vous savez qu'on peut, on peut faire séquencer son propre génome, et recevoir sa liste de risques de psychopathologies diverses et variées. Et effectivement, on peut recevoir un papier où il y a écrit 30% ici, 40%. À la fin, on arrive à 200% d'avoir un gros problème.
C'est
très anxiogène. Ouais. Mais c'est, semble-t-il quand même grandement du domaine du fantasme.
Hein, c'est la boule de cristal quand même, Grégory Michel, non?
Oui, tout à fait, parce que, justement, ce dont on parlait tout à l'heure sur
l'influence extérieure,
etc., c'est que...
Et les hasards de la vie, là aussi.
Exactement. Et puis, justement, même dans ces études un petit peu longitudinales, il n'y a pas un caractère prédictif. On est là dans quelque chose qui, a des tant pour cent de chances d'apparaître un peu plus tard. Mais heureusement, il faut, bien sûr, comment ne pas amalgamer, on va dire, un destin statistique, presque, des études. Et puis un destin, du coup, clinique et humain, parce que, il y a des circonstances dans la vie qui font qu'il y a des trajectoires qui vont être déviées, heureusement.
Ouais. Encore un petit mot sur la partie biologique, puis après, on passera au reste, évidemment. Qu'est-ce qui joue vraiment, alors, sur le tempérament? Alors, puisque là, on est dans le domaine du gène, est-ce qu'on arrive vraiment à évaluer ce qui va forger le tempérament et qui donc est lié directement à la biologie?
Non, comme le disait effectivement Sébastien, c'est compliqué.
C'est très complexe.
C'est compliqué parce que quand on parle de tempérament, il n'y a pas que la génétique.
Ouais.
Il y a les facteurs anténataux, c'est ce que je viens de dire, sur l'influence de l'environnement. Il y a tout ce qui peut se passer aussi au moment de l'accouchement, donc mm-hmm. les aspects aussi périnataux. Donc,
Quand on prend des enfants, prend deux ou trois enfants du même âge, très jeunes, ils vont manifester des traits de caractère déjà, très distincts.
De tempérament,
oui, voilà, c'est ça.
Ouais. De tempérament. Ouais. Le caractère, c'est plutôt l'aspect sociale, environnementale. C'est ce qui est de l'ordre de l'acquis, quoi.
Sébastien,
c'est vrai qu'il y a très tôt des différences de tempérament. La question que vous posez, c'est isoler effectivement les facteurs génétiques impliqués. Et mm-hmm. aujourd'hui, souvent, on se rend compte que c'est des pléiades de gènes. C'est-à-dire que vous avez probablement des centaines de gènes impliqués. Là, on fait ce qu'on appelle des études d'association. Voilà, c'est gigantesque, mais isoler quelques gènes, bien souvent, c'est très très difficile. Alors, il y a peut-être certains cas où on va y arriver, dans les cas de grande anxiété, de grande susceptibilité aux peurs, vraiment très 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 jeune, on peut peut-être trouver des choses. On sait que ça peut apparaître très très tôt chez certains, mais on n'a pas du tout encore trouvé le code magique. Non.
Ouais. Alors Grégory Michel, évidemment, la plasticité cérébrale, cette souplesse du cerveau qui est en pleine maturation, justement, au cours de la jeunesse, ça aussi, ça va réagir très particulièrement sur l'environnement et sur les événements extérieurs.
Oui, alors on est là encore dans des interactions réciproques, ce qui fait que du coup, il y a des périodes de la vie qui sont beaucoup plus propices finalement à un développement normal ou atypique, on va dire. Donc l'enfance, période aussi de l'adolescence, qui va faire que, voilà, par exemple, les fonctions exécutives, la capacité à s'autoréguler va prendre un peu plus de temps. Et donc quand on parlera effectivement de personnalité, on parlera de la personnalité plutôt à l'âge adulte. Mmh. Généralement, autour de 30 ans, quand ça s'est stabilisé, comme ça, il y avait une sorte d'allongement de l'adolescence depuis quelques années. Mais et avant, on est dans quelque chose qui va se façonner progressivement. Et justement, avec l'interaction dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que certains enfants n'ont pas le même tempérament, ça va aussi induire des réponses éducatives, des réponses environnementales différentes. Et ces réponses vont elles-mêmes intervenir dans, on va dire, les caractéristiques de ces enfants. Mmh. Donc, on est dans une co-construction, finalement, qui va allier l'environnement et qui va allier aussi, justement, cette biologie pour faire large, plus que la génétique, finalement.
Allez, on se retrouve dans un instant avec les témoignages des auditeurs et puis on va évoquer, justement, ces études longitudinales qui montrent bien comment évolue la personnalité des enfants jusqu'à l'âge adulte. C'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré.
And there ain't a single nother soul around. I wanna dig into my guitar, bend a blues riff that hangs over everything.
When I'm by myself and it's daytime, 'cause down under, oh, wherever it is I live, when it's evening, you know I speed read the morning news and come up with my
about all the other things, like a big old ominous cloud in my periphery. I inhabit a high-pitched ring over things. So these days I plug them up.
When I'm struggling with my songs, I do the same thing too, and I crunch 'em up in headphones, 'cause why wouldn't you? You could say I hear you on several levels at high decibels.
Over everything.
Courtney Barnett et Kurt Weill, Over Everything.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà mes invités Grégory Michel et Sébastien Boller pour parler de ce thème qui fait la une du magazine Cerveau et Psycho. Que reste-t-il de notre enfance et comment nos premières années forgent notre caractère, avec vos messages qui arrivent sur le site de l'émission. Catherine nous dit ceci. Merci à vous de souligner combien le rôle des parents est d'une importance capitale. Trop souvent, les échecs de l'enfant et de l'adulte à venir sont systématiquement imputés aux enseignants. Je pense que Catherine travaille dans l'enseignement, très probablement. Grégory Michel, une réponse.
Oui, alors on sait effectivement que l'éducation va aussi avoir un rôle assez décisif. Quand on parle de l'éducation, c'est pas simplement, on va dire, des pratiques éducatives qui peuvent être, on va dire, un peu standardisées de façon un peu classique, comme un style autoritaire, un style, on va dire, un peu permissif. Mm-hmm. Il y a aussi surtout la manière dont, et on a entendu justement tout à l'heure dans le reportage de Maïwenn,
oui, le film, ouais.
Voilà, c'est-à-dire que il y a la qualité émotionnelle des échanges, qu'est-ce qui va être transmis effectivement dans les interactions comme ça précoces, qui vont aussi permettre à l'enfant d'intérioriser parfois la crainte, l'inquiétude, la peur aussi de la mère, et ça va aussi agir sur la manière dont il va se refaire une représentation effectivement du monde et de la réalité. Donc on sait que tout ceci va aussi agir sur la manière dont l'enfant va se construire aussi une estime de lui-même. Mmh. Donc il y a beaucoup de travaux effectivement qui sont centrés sur voilà, est-ce que l'estime de soi dépend des pratiques éducatives, de l'éducation, et oui. Bien sûr que oui.
Tout ça est très complexe quand même, pour en donner la part exacte qu'on attribue à la famille ou à l'enseignement, c'est évidemment extrêmement compliqué. Sébastien Boller.
Je crois qu'elle a tout à fait raison, cette dame.
C'est Catherine,
que la réussite scolaire dépend probablement beaucoup de ce que les parents auront mis en place consciemment ou pas. C'est-à-dire que, vous prenez par exemple, on sait aujourd'hui que un des facteurs les plus prédictifs de la réussite scolaire et également professionnelle, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. C'est les travaux de Roy Baumeister, et de Walter Mischel, celui qui a inventé le fameux test du marshmallow. Je ne sais pas si vous le connaissez.
On en avait parlé.
La maîtrise de soi, c'est quelque chose qui s'apprend vraiment dans l'éducation des parents. La capacité à ne pas céder à ses impulsions.
Voilà. C'est ça.
Voilà. Donc vous mettez un enfant devant un marshmallow, et vous lui dites voilà, si tu arrives à ne pas y toucher pendant 3 minutes, tu en auras 2. Et puis il y a des enfants qui résistent et qui ont donc 2 marshmallows à arriver. Et ceux-là, ils réussiront,
c'est ça.
Et puis il y a ceux qui n'arrivent pas à résister et qui ont moins, mais tout de suite. Voilà. Et donc on mesure comme ça très très tôt avec des tests comme ça ou plus compliqués cette capacité de maîtrise de soi. Et évidemment, elle dépend beaucoup du discours à la maison, de la présence des parents autour de l'enfant, qui ne doit pas le priver, mais plutôt l'inciter à développer cette espèce de muscle cognitif pour ne pas être esclave de ses impulsions, mais au contraire voir loin. Et ça, c'est très très prédictif du succès. Et c'est pas seulement effectivement l'enseignant qui va l'apprendre, c'est quelque chose qui vient beaucoup plus tôt et qui fait partie de tous les domaines de la vie. Il y a dans notre dossier d'autres aspects qui sont très dépendants de l'éducation qu'on reçoit. C'est par exemple l'estime de soi. Grégory Michel en a parlé, puisqu'on s'aperçoit que ça dépend de certaines pratiques éducatives, c'est-à-dire il faut de l'attention et de l'affection, mais il faut aussi en même temps une incitation à une forme de discipline et encourager tout ce qui va mener l'enfant vers la maturité. Donc c'est quelque chose un mix bien précis. Et puis vous avez des études qui montrent par exemple que le niveau en maths d'un enfant va dépendre de son environnement familial, par exemple du style parental, la façon dont les parents soutiennent ou stimulent leur progéniture, mais également du niveau socio-éducatif.
C'est ça. Voilà. Ça joue beaucoup, Grégory Michel, les catégories sociales.
Oui, ça joue beaucoup parce que ça joue beaucoup sur la mise en place d'un ce qu'on appelle un environnement familial enrichi. C'est-à-dire une éducation, des pratiques éducatives qui vont nourrir la curiosité de l'enfant en le stimulant, en lui permettant effectivement de s'ouvrir finalement sur des domaines finalement qui sont parfois développés à l'école, mais pas seulement. Mmh. Et on voit que, voilà, ça c'est une dimension, par exemple, des Big Five, l'ouverture. Cette dimension justement qui permet de...
Ah, vous avez dit quoi, développer... Big Five? Il faut expliquer ça, Big Five. Vous venez de prononcer ce terme parce qu'il est très important, hein, oui. Il est central, puisque c'est une sorte d'échelle qui permet de donner des grandes caractéristiques aux traits de personnalité.
Alors, c'est un modèle déjà de personnalité, ouais. Qui a été construit par les psychologues américains Costa et McRae, qui ont permis de
dégager,
définir, ouais. De dégager, voilà... cinq dimensions importantes.
Qu'on appelle les Big Five.
Qui seraient, voilà, les Big Five et qui seraient partagées par tout le monde. Alors, ce sont des dimensions, c'est-à-dire qu'on va se situer à des niveaux différents. On a par exemple l'extraversion. Donc, on peut être très extraverti, moins extraverti. On a la dimension d'agréabilité, par exemple. On a la dimension du névrosisme, qui est plus cette notion d'instabilité un peu émotionnelle.
De colère, d'anxiété.
De colère, c'est ça, d'impulsivité. On a aussi...
L'ouverture à l'expérience.
L'ouverture à l'expérience, c'est ça. Le caractère consciencieux. Et le caractère consciencieux va aussi beaucoup dépendant justement, enfin du caractère qui va être lié justement à l'éducation, à la manière dont justement on va pouvoir permettre à l'enfant de s'autonomiser, de développer une sorte de discipline, de contrôle. L'école. On parlait aussi de l'école, mais bien sûr, cet environnement non partagé par les membres de la famille, ce qui se passe à l'école, la scolarité, les longues études vont permettre aussi, du coup, à la fois de développer, on va dire, cette ouverture, cette curiosité, qui va favoriser, du coup, une sorte de meilleure adaptation à l'environnement, l'ouverture, et ce caractère consciencieux, c'est-à-dire cette rigueur, ce contrôle, qui va permettre plus facilement aussi, du coup, à l'enfant, à l'adolescent et à l'adulte, de faire aboutir ses projets.
Et on va écouter justement, pour poursuivre cette discussion, l'extrait d'un documentaire qui a été diffusé en 2017, très récemment, donc sur France 5, et qui s'appelle « Ma mère, mon poison ».
Jessica, jeune maman de 19 ans, a passé une partie de son enfance dans des foyers et des familles d'accueil. Malgré son fort désir d'enfant, la grossesse a réveillé chez elle de telles angoisses que son médecin a demandé au service mère-enfant du Vésinet de l'accueillir.
Il vous écoute, hein. J'ai pas justement eu une vie familiale, peut-être parce que justement j'ai pas ressenti l'amour de ma mère. Et... Alors peut-être que moi j'avais envie de vivre ce que j'ai pas eu. J'ai eu ma place nulle part, je me sentais pas chez moi. Déjà, par exemple, des fois elle allait me laisser toute seule, elle partait. Hein.
Toute seule à la maison?
Ouais, toute seule à la maison. Des fois elle me ramenait au parc, elle disparaissait. Quand je la cherchais au parc, je la trouvais plus. J'avais des 6 ans, des trucs comme ça. Donc forcément, il y a eu des petites angoisses, il y a eu du stress, il y a eu des choses de me dire peut-être que ça va être comme elle, peut-être qu'il y a quelque chose de mal que je vais faire moi aussi, de faire un comme ma mère.
Voilà, Sébastien Boller, on voit bien la personnalité de cette jeune femme qui s'est construite quand même beaucoup sur l'insécurité. Hein.
Oui, alors effectivement, là un psychologue de l'attachement dirait probablement qu'on est devant un profil d'attachement qu'on appelle insécure. Parce qu'il y a toute une typologie de la façon dont on s'attache très très petit à ces figures d'attachement, en général les parents. On parle d'attachement sécure quand les parents en général répondent de façon fiable aux besoins de l'enfant et que l'enfant donc sait que les parents seront là. Donc il est capable aussi de s'en détacher pendant un moment et de savoir qu'il va les retrouver après. Alors que dans les cas où les parents soit sont... froid, ne répondent pas du tout aux besoins, soit le font de façon non prévisible, chaotique, on peut aller vers des états d'attachement insécures, alors soit évitant, où l'enfant va se murer en quelque sorte dans un silence émotionnel, il va pas oser justement exprimer ses besoins parce qu'il sait que de toute façon personne n'y répondra, soit vers ce qu'on appelle des conduites anxieuses où on va essayer de s'assurer de l'affection de l'autre, ou alors des profils mixtes, anxieux, évitants, et ces personnes-là souvent se retrouvent dans un discours exactement comme celui qu'on a ici, et ce qui est intéressant dans le témoignage de cette jeune femme, c'est qu'elle fait en fait un récit sur son passé, elle essaye d'analyser, de se faire une histoire, et c'est important. Alors nous, on a interviewé Didier Pleu, qui est un psychologue de l'éducation, sur cette question-là, il pointe cette importance qu'on appelle les synthèses de vie. C'est-à-dire quand on a eu des cicatrices de l'enfant comme ça, on a forcément après... quand on y réfléchit, quand ça tourne lupide un petit peu, tendance à écrire un discours qui récapitule un petit peu tout ça, qui lui donne un sens. Et ces synthèses de vie sont très importantes, mais elles sont pas toujours vraies, et elles aboutissent pas toujours à des conduites fécondes dans le quotidien. Par exemple, vous avez des gens qui, s'il se trouve qu'ils ont été, qu'ils ont pas reçu assez de leurs parents, se disent maintenant il faut que je prenne ma revanche et que je reçoive beaucoup de la société ou de mon employeur ou que sais-je. Et certaines thérapies, apparemment, qui fonctionnent assez bien, consistent à interroger ces synthèses de vie avec un thérapeute de façon consciente, de dire voilà, vous avez cette interprétation sur ce que doit ensuite devenir un progrès dans votre vie adulte par rapport à votre enfance, mais si on passe ça à l'épreuve des faits, est-ce que vous êtes bien sûr que c'est comme ça qu'il faut réagir ou que c'est comme ça que ça s'est passé? Donc il faut avoir un travail conscient d'adulte sur ce qu'on appelle les synthèses de vie.
Grégory Michel, pour poursuivre là sur ce qu'on vient d'entendre.
Oui, je crois que c'est très important cette notion d'attachement, parce que ça va créer effectivement une sorte de sentiment de sécurité intérieure qui va permettre effectivement de gérer l'absence de l'autre. C'est-à-dire que le parent qui va être absent à un moment donné restera présent parce qu'il sera intériorisé par l'enfant et ça lui permettra du coup de gérer. Des séparations, des frustrations. Et ce qu'on voit effectivement dans l'attachement insécure, c'est des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes, parce que cette psychologie de l'attachement ne se limite pas effectivement à l'enfance ou l'adolescence.
Au contraire, elle va se répercuter.
C'est quelque chose qui va effectivement s'étendre tout au long effectivement de la vie.
Qui joue beaucoup sur les relations amoureuses aussi.
Exactement, oui. Avec parfois, dans certains cas, selon certains types d'attachement, notamment insécure, une sorte de répétition de certains schémas relationnels qui font que du coup ces conduites d'échec sont répétées, ou cette recherche comme ça de sécurité vis-à-vis de l'autre va conduire au contraire l'autre justement à prendre ses distances parce que c'est un rapport trop adhésif et trop collant, et donc ça va limiter l'autonomie de l'un et de l'autre. Et puis surtout, cette question de l'attachement va être une source de souffrance. C'est-à-dire que au-delà de ces relations comme ça sociales, relationnelles, qui peuvent être précaires et difficiles, c'est aussi source d'apparition de troubles psychopathologiques. On sait que ce sont effectivement des personnes qui seront plus à même de présenter des troubles anxieux, des troubles dépressifs, qui peuvent être à même aussi plus particulièrement de s'orienter vers la consommation de substances psychoactives comme venant combler peut-être des difficultés psychiques. Donc ça a des répercussions effectivement importantes qui sont effectivement loin d'être négligées, notamment dans une approche thérapeutique évidemment. Ouais.
Jean-Jacques demande pourquoi mes jumelles homozygotes de 3 ans qui ont le même patrimoine génétique ont eu très rapidement des tempéraments très différents. Alors, quelle réponse
à
cette question?
Parce que là, on
a un bon exemple justement de patrimoine génétique commun. Et pourtant, des tempéraments qui semblent différents à la naissance.
Chacun est obligé de construire son identité et sa place dans la famille et sa différenciation psychique. C'est-à-dire que l'idée d'être identique à quelqu'un d'autre, sans doute, n'est pas gérable.
Donc on voit bien qu'il y a une imprégnation extérieure, de toute façon, qui joue dès le plus jeune âge.
Et puis dans les rapports entre jumeaux, on sait qu'ils sont souvent asymétriques. Chacun endosse un rôle et l'autre un autre rôle. C'est très amusant, d'ailleurs. Et ça se fait pas toujours, d'ailleurs, avec des conséquences favorables pour chacun des jumeaux. Mais il peut y avoir des rapports de domination, puis des parents qui ne vont pas être toujours égalitaires. Donc ça ne peut pas rester le statu quo éternellement.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de notre discussion.
C'est bien comment ça commence. D'abord, elle fait la gueule pendant des heures. Après, je fais la gueule pendant des heures. Faut qu'on apprenne à s'aimer autrement. Elle fout la mort. Elle se fout de savoir qui a raison ou à tort. Quand je dis que je suis fou d'elle, elle me répond et alors. Fout tes doutes à la poubelle, Miami. Prise de tête pendant des heures. Prise de tête pendant des heures. J'ai beau lutter, mais ça recommence. Qu'avant, je veux m'expliquer avec elle, c'est jamais le bon moment. On est plus ennemis qu'amant, c'est ce qu'on se dit fréquemment. Je veux m'exiler avec elle, devenir son médicament. La soulager pendant des heures. Isolée comme des naufragés pendant des heures. Va falloir ramer pour lui faire un enfant. S'aimer autrement.
Heures et c'était Némir.
La tête au carré.
Lorsqu'on dit que à 6 ans, tout est joué, on a raison dans un sens. Je veux dire que l'enfant s'est construit son caractère à 6 ans, d'après les expériences qu'il a vécues de 0 à 6 ans. Pourquoi ? Mais parce qu'au début de la vie, il est encore sans référence. Il serait élevé par des Chinois, il parlerait chinois. Mais enfin, il se trouve qu'il parle français, et pas seulement la langue. Il parle le comportement des parents. Il s'est instruit, il s'est informé que pour devenir une grande personne, il faut être comme sa maman et son papa ont été avec lui. Si bien que cela veut dire que cet enfant aura un caractère qui sera marqué de la relation qu'il a eue. Mais ça ne veut pas dire que ce caractère va être un caractère catastrophique et névrosé. Enfin, on ne va pas, parce qu'on a donné, on n'a pas donné assez de biberons à un enfant avant 18 mois, les lui donner tout d'un coup à 9 ans, parce qu'on s'aperçoit qu'on ne les a pas donnés parce qu'ils étaient petits, voyons.
Voilà, auditeurs de France Inter, vous avez reconnu la voix de Françoise Dolto lorsque l'enfant paraît. C'était avec Jacques Pradel en 1976. Il parle le comportement des parents. Voilà ce que disait à l'instant Françoise Dolto, Grégory Michel. Vous êtes d'accord avec cette formule ?
Sur le comportement de...
L'enfant parle le comportement des parents.
Oui, dans certains cas. Dans d'autres cas, il ne parle pas le comportement des parents, dans la mesure où il peut effectivement avoir des caractéristiques individuelles qui ne correspondent pas, on va dire, à celles des parents. Mm-hmm. Je pense, par exemple, en tout cas dans ma pratique clinique ou dans certains travaux aussi qu'on a menés, c'est-à-dire des enfants qui ont, on va dire, un tempérament un petit peu vif et qui vont évoluer dans une famille où, au contraire, c'est très réglé, il y a, on va dire, une sorte de fonctionnement éducatif avec un cadre, et où cette énergie va être perçue comme quelque chose relevant effectivement de l'agitation. Donc l'enfant ne va pas effectivement se comporter en miroir de ce qu'il voit effectivement à la maison, parce que il est aussi unique. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler aussi avec les parents, c'est-à-dire il y a des choses qui vont impacter effectivement la personnalité de l'enfant au travers de l'éducation, et en même temps, l'enfant, il est effectivement ce qu'il est, quoi.
Valentin nous dit, quand une personne a passé 30 ans avec sa personnalité et ses traits de caractère antipathiques, entre guillemets, pourris, est-il déjà trop tard, Sébastien Boller ? Alors, après 30 ans, qu'est-ce qui se passe ?
Oh non, c'est pas trop tard. Tout peut arriver. Enfin, en général, on est quand même capable de réfléchir, et si on le veut, de changer certains aspects de notre personnalité. Cela dit, c'est vrai que beaucoup de choses sont établies à 30 ans, ont tendance à se stabiliser à 30 ans. Mm-hmm. Bon, quand Françoise Dolto parle de tout est joué avant 6 ans, aujourd'hui on étendrait peut-être un peu plus tard,
c'est
quand
ça.
Même.
Ouais.
Par exemple, alors ça c'était un des faits importants qui ont été découverts ces dernières années, c'est que quand vous mesurez le bien-être émotionnel d'une personne à l'âge adulte, mettons à 40-50 ans, vous vous rendez compte qu'effectivement ça dépend beaucoup du type de satisfaction qu'il y a eu dans l'enfance, du type de rapport sécurisant, du contexte dans la famille dans l'enfance, mais qu'aussi ce qui est très très prédictif du bien-être à l'âge adulte, c'est la qualité des relations d'amitié qu'on a eues à 16 ans. C'est-à-dire au moment de l'adolescence, où d'autres figures d'attachement peuvent apparaître, ou en tout cas de façon de se positionner socialement, de créer des liens très très forts, qui peuvent être un petit peu une deuxième chance, on va dire, pour passer une deuxième couche sur quelque chose qui n'aurait pas très bien fonctionné au début. Alors après, sur l'âge des 30 ans, c'est vrai, par exemple, moi ça me fait penser à une chose, c'est, vous savez, ce qu'on appelle les périodes de critique de plasticité du cerveau, c'est ce qu'on appelle les fenêtres d'apprentissage, le fait qu'il y a une période idéale pour apprendre à lire, une autre pour apprendre à parler, une autre pour apprendre... Voilà. Elles se sont toutes refermées à 30 ans, ça c'est vrai. On considère qu'à ce moment-là, le cerveau a refermé ses fenêtres de plasticité. Ouais. Donc l'essentiel, ce qui fait son disque dur de ses compétences de base, là, c'est globalement refermé. Il va falloir fonctionner avec ça.
C'est ça, mais il reste toujours une plasticité du cerveau tout au long de la vie. Il ne faut pas croire que les choses restent figées après 30 ans.
Il reste pas hein. Si c'était...
Grégory Michel, Galien qui nous dit « Mes parents ont divorcé très tôt, mon père s'est remarié avec quelqu'un qui m'a toujours demandé de partir de la maison. Ils se sont mariés, ont déménagé ma chambre toujours alors que je n'étais pas là sans me prévenir. Depuis, dit Galien, j'ai toujours énormément de mal à m'installer, à trouver une situation stable et à avoir confiance. » Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Et puis, c'est l'occasion d'évoquer aussi peut-être les périodes de séparation, les conséquences du divorce aussi sur la construction de la personnalité des enfants.
Alors, ça peut être effectivement vécu, et ça l'est sans doute, comme un événement traumatique. Et on sait très bien que, justement, toutes les études, on va dire, de trajectoire comme ça, qui évaluent la personnalité, ne tiennent pas forcément aussi compte des événements négatifs de la vie, des incidents de la vie. Et là, effectivement, ça peut être un événement suffisamment traumatique que ça a une empreinte, effectivement, sur la perception qu'il a de lui-même, sur la perception qu'il a des autres, sur la confiance aussi qu'il peut effectivement attribuer aux uns et aux autres. Et donc, nécessairement, presque inéluctablement, s'il est confronté à une situation qui partage certaines caractéristiques, ça va le renvoyer à cet état antérieur, un état antérieur, on va dire, voilà, où, de souffrance, de difficulté, etc. Donc, bien évidemment, ça va le, entre guillemets, le fragiliser. Mmh. Mais ça n'est pas non plus insurmontable. C'est-à-dire que, comme le disait effectivement Sébastien, même s'il y a une sorte de stabilité, on va dire, à l'âge adulte, à 30 ans, et que il y a des modifications qui sont un petit peu plus mineures, on peut quand même, heureusement, agir sur des travers qui peuvent exister dans la personnalité.
C'est toujours très débattu, quand même, les conséquences du divorce sur les enfants ?
Oui, parce que, enfin, c'est pas tellement l'événement lui-même qui est, on va dire, traumatique. Mmh. C'est la manière dont il va être vécu, la manière dont il va être géré par les parents, la manière dont l'enfant va être, on va dire, pris, entre guillemets, un peu en otage dans des conflits comme ça d'intérêt. C'est ça. L'événement lui-même, finalement, peut être, finalement, relativement bien vécu. Pourquoi ? Parce que parfois, il y a des tensions, finalement, préalables, qui sont tellement violentes que, du coup, ça apparaît plus comme une sorte de soulagement, une solution comme ça, de compromis. Mais si, au contraire, ça... Et puis, il y a la durée. C'est-à-dire que le fait que la séparation peut effectivement s'étendre dans le temps, c'est effectivement quelque chose de d'anxiogène, de pathogène, effectivement, pour l'enfant.
Sébastien ? Oui. Alors, ce qu'on dit toujours, c'est qu'il y a des bons divorces et puis des mauvais couples qui continuent. Il y a du nouveau, hein, il y a des recherches élégantes qui sont faites. Il y a un paramètre très important qui est apparu récemment, c'est le fait que les parents, dans une séparation, conservent une communication respectueuse. On s'est aperçu que quand c'est le cas, par exemple, vous avez pratiquement pas d'effet en termes de stress à long terme sur l'enfance. Il y a des expériences, par exemple, où on teste la force du système immunitaire de personnes adultes, et on s'aperçoit que lorsque le divorce a été vécu sur un mode dramatique où les parents ont rompu la communication, ensuite la personne adulte a un système immunitaire plus faible, qui est le résultat d'un stress très très fort et prolongé, stress chronique, qui affaiblit le système immunitaire. Alors que si vous avez un divorce où les parents conserve un rôle de partenaire communicant, respectueux l'un de l'autre, il n'y a pas du tout cet affaiblissement du système immunitaire dû au stress.
Donc il y a des vrais effets physiologiques.
Oui, tout à fait, hein, sur ces événements. À long terme, alors pour beaucoup, pour toute la vie.
Valérie nous dit, par quel phénomène une fille aînée et aimée peut calquer peu à peu son comportement vis-à-vis de sa mère sur celui de son père, mépris, méfiance, agressivité et en venir à détester sa mère. Qui veut répondre ? Silence dans le studio.
je sais pas, Sébastien.
Non, là c'est.
Disons que l'enfant, oui, va parfois calquer, on va dire, le comportement de l'un des deux parents pour s'affirmer, pour se différencier, pour aussi trouver peut-être une place, pour en tirer un bénéfice, on va dire, dans la relation parent-enfant. Ça, on va dire, ça, c'est des choses qui vont se jouer même, dans toute fratrie, finalement, et dans tout rapport, finalement, enfant-parent.
Puisque Valérie parle justement de sa position de fille aînée, la position de l'enfant modifie beaucoup, en tout cas, influence beaucoup le caractère à venir ou pas ? Il y a des travaux aussi là-dessus qui ont été faits à l'occasion de ces études longitudinales.
Il y a des travaux empiriques qui, finalement, ne sont pas tous concordants dans les résultats, donc, mais il y a effectivement certains modèles qui plaident en faveur de certains profils, on va dire, psychologiques qui seraient plutôt attribués à l'aîné ou cadet, etc. Ce que l'on sait effectivement, c'est que les rôles vont être différents, c'est-à-dire que l'attribution de responsabilité sera forcément plus forte auprès d'un aîné, en tenant compte, bien sûr, aussi, entre guillemets, de la maturité éducative des parents. Alors, on va pas éduquer de la même façon, finalement, l'aîné qu'un enfant 2 ans, 3 ans ou 4 ans plus tard. Mais il y a un rôle, effectivement, peut-être à imiter, qui peut se retrouver, effectivement, chez le cadet. Il y a des comportements peut-être un peu plus d'infantilisation qui peuvent du coup aussi nourrir certaines caractéristiques individuelles reliées par exemple à l'extraversion ou à des dimensions comme ça qu'on va peut-être moins retrouver chez l'aîné qui sera peut-être un peu plus consciencieux, qui sera un peu plus justement axé sur l'ordre, sur la discipline, sur le modèle, parce que il y a les parents qui vont effectivement lui attribuer une certaine fonction.
Sébastien, pour conclure.
Oui, mais cette question des aînés et des cadets, effectivement, on l'a posée parce qu'elle revient sans arrêt. Et c'est vrai que c'est très débattu. Non, il y avait juste une chose qui m'avait étonné dans ce que vous aviez écrit, Rémi Michel, c'est que apparemment il y a des points de QI de différence.
Oui.
Selon la position de naissance.
Oui. Enfin, dans une étude. Oui. Soyons aussi clairs. C'est-à-dire que là, ce qui est important, c'est d'essayer de faire un point sur des études qui vont toutes dans le même sens. Là, il y a effectivement une étude qui semble effectivement souligner qu'il y a des écarts faibles, puisque c'est un point. Donc, ça reste quand même extrêmement faible. Mais c'est ce qu'on retrouve. Oui.
Merci beaucoup à tous les deux. Que reste-t-il de notre enfance? C'est ce mois-ci dans les kiosques et c'est à la une de Cerveau et Psycho. Merci beaucoup d'être venu nous en parler cet après-midi.
Merci à vous.
Merci également à Julien Chabassu et Raphaël Rousseau qui étaient aujourd'hui à la technique. Et demain, notre dossier sera consacré à la communication entre les arbres.